devant son mort. Le problème, c'est normalement, on aurait dû dire Malpne Sarah ou bien Malpne Ahmet. Pourquoi Meto? Donc, Melamed Shaya Roé Malach Hamavet Matris Kenegdo. Donc, ça vient nous enseigner que Abraham voyait le Malach Hamavet qui le menaçait d'une certaine façon. Alors, le Matnos Kuna, un des grands commentateurs du Midrash,
et ça va continuer.
Il dit que
Ah,
c'est parce que
oui, c'est ce qu'elle vient de l'écrire.
le Satan, Malach HaMavet, c'est le Satan, le Yetzara, c'est tout la même chose, n'est-ce pas? Et il le menace parce que, enfin, Avraham le ressent comme le menaçant. C'est par rapport à ce qu'on avait vu plus haut. On a dit qu'il venait, que Avraham venait, Me'ara Moria. Il venait du Moria, c'est-à-dire de ce qui s'est passé, qui a causé la mort de Sarah. Donc, quelque part, Abraham Avinu, il entend qu'il est un peu fautif de la mort de Sarah. Bon, je crois que j'ai déjà dit, j'ai pas vraiment d'explication à ce sujet-là, que je comprenais pas vraiment pourquoi Abraham n'avait pas dit à Sarah ce qu'il allait faire. J'ai apporté l'autre fois un midrash. Il lui a expliqué qu'il allait partir avec Yitzhak pour l'initier, etc. Bon, c'était quelque chose qui pouvait passer parce que Sarah avait bien mangé, elle avait bien bu, mais a priori, ça n'a pas l'air de tenir tellement la route. Alors c'est sûr que a priori Sarah elle est morte de l'information que le Yetzirah, le Satan, Malach HaMavet lui a donnée. Et d'une certaine manière elle est morte parce que elle n'a pas eu la force d'entendre la fin de l'histoire. Le Malach HaMavet, il a raconté l'histoire de telle sorte de faire le plus grand choc possible. Il a commencé par raconter par dire qu'Abraham est en train de, il lui a pas dit tout de suite, mais finalement il l'a pas tué. Donc, ça aussi c'était une des questions à laquelle j'ai pas vraiment de réponse. C'est assez tragique, si vous voulez, de penser que la dernière image verbale d'Abraham qu'a Sarah au moment où elle meurt, c'est l'image d'Abraham tuant son fils. Alors, même si effectivement, d'abord, premièrement, le Satan lui a pas dit qu'il l'a fait sur l'ordre d'Hachem. Donc, c'est comme si elle était même partie avec une idée, comme quoi, est-ce qu'Abraham, il est sur ses vieux jours, il est. Je vous ai dit, il y a d'autres, à ce sujet-là, certains posent la question de savoir en quoi est-ce que la Akedah était une épreuve pour ça, pour Avraham. Dans la mesure où tous les gens de l'époque le faisaient couramment de sacrifier leur enfant à la divinité. Donc, eux, ils le faisaient à leur Dieu, alors lui, il le fait à son Dieu, donc, est-ce que c'est vraiment une épreuve? Donc, c'est sûrement pas ça l'épreuve, probablement. L'épreuve, c'est sûr qu'il y a une dimension dans le fait qu'il a enseigné toute sa vie que c'était complètement interdit, etc. Ça, c'est déjà une contradiction interne, finalement. Après, il y a le fait que c'est, dans la procédure du Molech, où les gens donnaient un de leurs enfants, c'était pour sauver les autres. Mais quand on n'en a qu'un seul, ça marche pas. Bon, tout ça, ce sont les questions que je suis obligé de laisser ouverte parce que je ne sais pas très bien quoi dire. Mais ici, on nous dit, il a vu le Malach Mavet qui l'accusait. Finalement, c'est de ta faute. Mais c'est peut-être la conscience d'Abraham qui parle de cette manière-là. Et puis là-dessus, Rabbi Yochanan enseigne, il donne un enseignement, une halakha, qui dit que quand quelqu'un perd un proche, quelque chose qui s'appelle meto, son mort, eh bien, il est patour de toutes les mitzvot de la Torah. Et c'est de là qu'on l'apprend. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le texte, immédiatement après que Avram s'est levé à Pnei Meto, immédiatement il est allé parler avec les Bnei Chet, immédiatement il est allé négocier l'achat de la tombe de Sarah. Donc ça veut dire que toutes affaires cessantes, toutes mitzvot cessantes, tu dois aller t'occuper d'enterrer ton mort. Alors on peut se demander quel est le lien entre, quel était le lien entre cette histoire du Malach HaMavet qui l'accuse d'un côté et cette halakha qui est que toute mitzvot cessante, tu dois aller t'occuper d'enterrer le mort. Et si on considère que les deux choses sont un peu liées, alors je peux lire, tu dois aller t'occuper immédiatement d'enterrer ton mort, parce que c'est la façon de réparer d'une certaine manière le fait que tu y sois pour quelque chose dans la mort de Sarah. Donc ce serait ça un premier lien en quelque sorte. C'est comme si, d'un autre côté, c'était comme si le mort t'ordonne, occupe-toi de moi, et que cet ordre qui vient d'Hachem, il est plus fort que les ordres qui lui donnent des mitzvot. L'ordre de Kriyat Shema, de Tfilin, de, etc., de Kol HaMitzvot Sheba Torah. Quand quelqu'un décède, nous on ne dit pas en général qu'il est mort, on dit qu'il est patour, ou il est niftar. Niftar, c'est la chaune ptour, c'est-à-dire il est dispensé de toutes les mitzvot. Il est dans un état où il est dispensé des mitzvot, quelque part ça veut dire on lui demande pas de faire des mitzvot. Et d'ailleurs, il reste quand même quelque chose, une espèce de, quand on est patour de quelque chose, il y a le fait d'être patour de la chose, ça rappelle la chose. Ça rappelle que il y a eu un moment où on était chayav, où on sera chayav peut-être plus tard, etc. Et donc, la personne, elle a encore un certain lien, le mort, il a un certain lien avec les mitzvot. Ce lien, c'est d'en être patour, mais c'est un lien. Tu n'as pas besoin de faire ça. Oui, ok, alors. Toi, tu m'en parles, si je n'en ai pas besoin. Et il y a une halakha qui va un peu dans ce sens-là, qui est que quand on va dans un cimetière, si on a l'habitude de porter les tzitzit à l'extérieur de son vêtement, on doit les rentrer. On doit cacher les tzitzit, parce que sinon, c'est comme si on se moquait du mort. Tu vois, moi, j'ai des tzitzit, je fais des mitzvot et toi, tu ne peux pas en faire. Donc, il y a une halakha de cacher ces mitzvot, que de cacher les tzitzit quand on entre dans un cimetière. Maintenant, il y a un autre problème. Quand quelqu'un est patour mikol haTorah, kol mitzvot haTorah, c'est l'état du mort. Donc, c'est comme si on disait que quand le mort est devant toi, ben toi, tu es aussi un peu mort, puisque tu es dispensé de toutes les mitzvot, comme lui. Tu es dans le même état par rapport aux mitzvot que lui. Sauf que toi, tu dois l'enterrer, mais bon, il ne peut pas s'enterrer tout seul. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que celui qui a perdu un proche, donc qui est soumis à cette halakha, pourquoi il est mort, lui? Pourquoi il est considéré comme mort? Et on peut penser la chose suivante. Quand un tribunal condamne quelqu'un à mort, le tribunal, il ne tient pas compte de l'impact de cette mort sur l'environnement. Il ne tient pas compte ni du chagrin des proches, ni des conséquences économiques que peut y avoir. Le type, il dirige une usine, s'il n'est plus là, ça va faire péricliter, les gens vont perdre leur boulot, etc. Il y a des conséquences qui peuvent être absolument gigantesques dans la mort de quelqu'un. Et le tribunal qui condamne quelqu'un, il ne tient pas compte de tout ça, pour la bonne raison qu'il n'est pas capable d'en tenir compte. Il n'est pas capable d'évaluer toutes les conséquences. Mais quand quelqu'un meurt de mort qu'on appelle naturelle, c'est-à-dire ben, Hachem, lui, il peut, oui, évaluer toutes les conséquences. Et on dit qu'il les évalue. Il y a Chazal qui dit « Echad min ha-chaburak shemet » quand il y a quelqu'un d'un groupe, vous avez un groupe, un groupe de gens, je ne sais pas, un minyan, une synagogue, je sais pas, un groupe de gens qui jouent à la pétanque, peu importe, des groupes. S'il y en a un qui meurt, tidak kol ha-chabura. Toute la chabura doit se soucier, doit être en souci. Quoi, qu'est-ce que... C'est simple, c'est que s'il est mort, ça veut dire Hachem a tenu compte de l'impact que ça aurait sur toute la chaboura, en tout cas. On ne peut pas aller plus loin que la chaboura. Bon. Mais en tout cas, la chaboura, on la voit, les gens, vous sentez chaboura. Chaboura, ça veut dire chibour, la chose, vous êtes liés les uns aux autres. Donc, ça vous concerne. Si cette personne a pu mourir, c'est qu'Hachem a évalué que le tsar, la douleur, les ennuis que ça vous causerait à vous, chacun des membres de la chaboura, vous le méritez. Donc, d'une certaine manière, on peut pas dire qu'on est la cause de la mort, mais si nous, on le méritait pas, ou si les gens de la chaboura ne le méritaient pas, ben, le bonhomme, il aurait pas pu mourir. Donc, quelque part, ça veut dire justement que quand tu es proche, tu es un peu mort. Alors pendant un très court laps de temps, tu vas expérimenter la situation. Tu n'es pas tour de toutes les mitzvot, sauf de celle de s'occuper de lui, parce que c'est sur lui que c'est tombé quelque part. Donc toi, tu dois t'occuper de lui. Vous voyez, donc c'est peut-être ça le lien. Quelque part, Avraham, même si on n'entre pas dans le problème de Moria au sens Moria, c'est le lieu où s'est passée la chose qui, quand elle l'a entendue, a d'une certaine manière tué Sarah. Mais c'est évident qu'Avraham Avinu, il était très affecté par la mort de Sarah. Et donc, évidemment qu'Hachem a tenu compte de l'impact de cette mort sur Avraham. On ne nous en dit pas grand-chose dans la Torah. La Torah dit, bon, il est venu faire son éloge et la pleurer. Bon, peut-être que c'est tout ce qu'on a voulu dire. On ne va pas commencer à nous raconter les états d'âme d'Abraham. On sait par ailleurs, on va le voir clairement, que pour Yitzhak, ça a duré plus longtemps. Yitzhak, jusqu'à ce qu'il se remette de la mort de sa mère, ben il faudra le mariage avec Rivka, qui remplacera complètement sa mère. Ça, on le verra plus loin. Donc, on voit effectivement l'impact, évidemment, de la mort de Sarah, en particulier sur Abraham et Yitzhak. Alors, pourquoi c'est Abraham et pas Yitzhak? Parce que quand il y a plusieurs personnes qui sont en cause, c'est peut-être les plus proches ou ceux qui ont le plus... qui sont les mieux placés pour s'en occuper. C'est évident, si que quelqu'un décède à Paris et qu'il a des enfants qui sont en France et des enfants qui sont outre-mer, etc., a priori, ce sont les enfants qui sont les plus proches qui vont s'en occuper. Donc, disons qu'Abraham était plus proche ou plus... Peut-être qu'il avait plus les moyens. On voit très bien qu'il est considéré comme un prince, ce que n'était sûrement pas Yitzhak. Alors, Yitzhak n'est pas un petit gosse. Hein. Il avait 37 ans à la Akeda, donc il a 37-38 ans. Mais ça va lui mettre jusqu'à 40 ans. Il va se marier à 40 ans. Jusque-là, pour se remettre de la mort de sa mère. Voilà donc, je crois, le lien donc entre les deux parties de ce numéro, qui est le numéro dans le verdier, c'était 23.3. Alors, le 23.4, alors c'est immédiatement, comme on a vu, Avram est allé parler avec les Bnei Chet. Il va parler avec eux pour essayer de les gagner à sa cause. Avram, il sait très bien ce qu'il veut pour enterrer Sarah. Il veut ce que nous on va appeler après la Torah va l'appeler Maratha Marpella. Dans Marpella, il y a la Shon Kafoul, double. Parce qu'à ce moment-là, c'est un double tombeau. C'est un tombeau avec deux tombes. Au moment où Avraham l'achète, cette Maratha Marpella, il y a deux morts qui sont enterrés là-bas. C'est Adam et Chava. Ça qui s'appelle Marpella, Shon Kafoul, double. Alors Avraham s'est levé de son mort et il est allé parler au Bnei Chet. Et il leur dit le Midrash, Ger v'toshav anochi imachem, je suis ger et toshav avec vous. Et il va leur demander une tombe, une seule tombe. Une tombe pour Sarah. Le Nidon, c'est une tombe. Alors, c'est des mots célèbres, Ger v'toshav anochi imachem, Avraham qui leur dit, je suis étranger et, on traduit toshav par résident. C'est-à-dire, dit le Midrash, est-ce qu'il est le Midrash en français? Voilà. En français, il dit, je suis étranger, c'est ça le mot guerre, guerre ça veut dire étranger, et vous entendez dans guerre, vous entendez gour, la gour, habiter. C'est un étranger. Je ne fais qu'habiter ici. Je n'ai pas de racine ici. Je ne suis pas un autochtone. Je ne suis pas du coin, en quelque sorte. Ils ont traduit, je suis un autre. Autre a les deux sens. Je suis un autre. Mais je suis votre hôte. Je ne sais pas si dans guerre, on entend cette notion d'être autre. Je dis, j'habite ici. Mais d'une certaine manière, comme je suis étranger, j'habite ici et j'ai le droit d'y habiter, mais je n'ai que le droit d'habiter. Mais je suis toshav, résident, eux, ils ont traduit le maître du lieu. C'est-à-dire, en fait, je suis le maître. Et je vous explique ce que ça veut dire. C'est que si vous cédez à ma requête, donc si vous me vendez la tombe que je vous demande, alors je serai votre hôte, c'est-à-dire je ne serai que votre hôte. Je veux bien être l'étranger. Mais sinon, si vous n'acceptez pas, si vous ne me vendez pas cette tombe, alors j'en serai le maître. Parce que Hachem a dit, j'ai donné cette terre à ta postérité. Alors, tenu, il répète. Donnez-moi. Achuzat kever imachem. Ve'egbera meti milfanai. Accordez-moi, donnez-moi. Donc, achuzat kever, c'est-à-dire, achuzat lechoz, ça veut dire se saisir. Donnez-moi la possession d'une tombe, la propriété d'une tombe. Alors, il y a cette forme-là, parmi vous, donc, imachem, avec vos, parmi vos sépultures. Ve'egbera, et j'enterrerai Meti, mon mort, mi le fanaï. Littéralement, deux devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire, mi le fanaï? Le mort est devant moi, et maintenant je vais le faire disparaître, je vais l'enterrer. Quelque part, il y a une dimension, faire disparaître de devant moi. Parce que tant qu'il est devant moi, comme on a vu plus haut, tant qu'il est devant moi, je suis dispensé de toutes les mitzvot, donc je suis toujours encore un peu mort. Pour que je puisse vivre, continuer à vivre, c'est comme ça qu'il faut peut-être l'entendre, il faut que vous me donniez une tombe. À ce moment-là, je vais pouvoir ensevelir le mort. Et la mort ne sera plus devant moi. Et donc, je redeviendrai capable de faire, astreint à toutes les mitzvot. Donc, ce n'est qu'une seule tombe que je demande. Le Midrash dit, « Eni mevakesh mikem, je ne vous demande pas, Ela, metechad. Je vous demande seulement ce qui concerne un seul mort. Shenema tenuli achuzat kever, kever c'est au singulier. » Donc, ça veut dire une seule tombe. Alors, c'est intéressant parce que cette phrase de « Guerre veut toshav », c'est quoi? Il demande et il menace. C'est une demande assortie d'une menace. On voit que dans la démarche, on va le voir dans la suite, que Avraham va être très respectueux des gens du coin. Il va leur donner beaucoup de kavod. ben, se prosterner devant eux, etc., au sens de remerciement, en quelque sorte. Mais ici, c'est un peu curieux, parce que en même temps, il demande, comme un étranger, mais comme si, par derrière, il dit, attends, c'est un jeu qu'on joue, là. On joue un jeu. Moi, je joue l'étranger. C'est bien ça, puisqu'il dit, en fait, je suis le maître. Donc, je joue l'étranger. À condition que vous me donniez cette tombe. Sinon, on remet les choses à leur vraie place. Je suis le maître. Et donc, je vais vous chasser. Je vais vous faire la guerre, donc. C'est à la fois une situation un peu... Mais la question qu'on doit se poser, si vous voulez, c'est, je crois, quelque chose que j'ai déjà dit. Mais bon, on va se répéter quand même. On s'était demandé, dans les shiurim précédents d'ailleurs, pourquoi le Sefer Bereshit est devenu Torah? La Torah, elle devrait commencer seulement à Chodesh Hazelachem, vous vous souvenez. Alors, ce qui nous est enseigné dans ce Sefer Bereshit, il n'y a pas vraiment de mitzvot, pas beaucoup, presque pas de mitzvot. Bien qu'il y ait plein d'enseignements, on vient d'en citer quelques-uns, mais il y a des enseignements, mais il n'y a pas vraiment de mitzvot. Mais ce qui nous est dit, c'est le fameux principe de Maase Avot Siman Abanim. Les actes des patriarches en particulier, c'est un siman pour les enfants, pour leurs descendants. C'est-à-dire, ce qui nous est relaté de ce qu'ont fait les Avot, ça nous est enseigné parce que ça nous dit comment on doit agir dans certaines sortes de circonstances. Alors, ça veut dire, par exemple, Chazal disent que quand les Chachamim devaient aller négocier avec les Romains au moment de l'occupation romaine, il fallait aller à Rome pour négocier. Alors, la Gemara, elle dit que les Chachamim, avant d'aller à Rome, ils relernaient, ils étudiaient la parasha de Vaishlach. La parasha qui décrit comment Yaakov Avinu s'est préparé pour affronter Edom. Edom, Rome, c'est Edom. Donc, on a une leçon. Comme vous savez, évidemment, Yaakov Avinu s'est préparé de trois manières à la confrontation avec Esav. Il s'est préparé, il a préparé des cadeaux. Il s'est préparé par la prière, et il s'est préparé à la guerre. Alors, bien entendu, quand on va négocier avec les Romains et qu'on est occupé par les Romains, peut-être que tout n'est pas possible. Mais par exemple, l'histoire cadeau, le clan Israël n'a pas arrêté de survivre dans les galouillotes avec les cadeaux. Les cadeaux, ça voulait dire faire des cadeaux à tous les puissants. Et puis aussi, jouer le jeu. D'accord? On savait très bien que, en France, ils l'ont considéré comme français, qui ont commencé d'ailleurs. Ben, quand ils auront besoin d'argent, ou pour une raison ou une autre, ils vont nous expulser. Ils vont prendre tous nos biens. Et par conséquent, tout l'argent qu'on leur avait prêté, puisque les Juifs étaient prêteurs, ce que les chrétiens officiels ne pouvaient pas faire, eh bien, on n'a pas besoin de le rembourser puisque on a expulsé les Juifs. Donc, on leur pique leur argent, leurs biens, ce qu'ils ont. On leur rembourse pas leurs dettes, on les expulse. Et après, les Juifs vont travailler pour pouvoir revenir, donc il va falloir arroser partout où il faut arroser, pour pouvoir revenir finalement, et rebelote. On est juif, voilà, on va leur emprunter de l'argent, et puis quand il faudra, ben alors, celui de votre rue, là, Ezra, Philippe Auguste, là, d'accord, ben, il a expulsé les juifs, fait main basse sur leurs biens. Puis après, il y en a d'autres, celui qui est porte le dans l'hôpital en face de chez nous porte le nom, c'est la crapule des crapules, parce que c'est celui qui a brûlé le Talmud en place de grève. Ah, mais lui aussi, c'est tous des antisémites notoires, tous les capétiens d'ailleurs. Bon, ben, je ne vais pas me mêler l'histoire de France, hein, je ne suis pas habilité à parler de l'histoire de France, mais bon, je vous le dis quand même en passant. Et donc, les Chachamim, ils s'inspiraient de cette paracha pour, visiblement, pour savoir de quelle manière on allait négocier avec les Romains. Bien avant, la Torah, elle nous rapporte que Kalev, quand il a dû louvoyer, il a dû gérer la situation, parce que les Meraglim, ils l'avaient mis au courant du complot. Ils voulaient qu'il soit avec eux. Il allait s'inspirer sur la tombe des Avot, justement. Alors, il y a toujours tout le problème d'aller sur la tombe des Tzadikim, des Avot ou des Tzadikim. Exactement comment ça doit se faire, effectivement. On n'a pas le droit de prier les Tzadikim, de prier que Hachem. Donc, à la limite, si on va là-bas, c'est pour s'inspirer, c'est pas du tout pour leur demander quoi que ce soit. Parce qu'a priori, on n'a pas le droit de leur demander des choses. Bon, je sais que, bon, il y a toutes sortes de minagim, de façons de faire, de comment on va pas sur les tombes, mais en tout cas, il y a des halakhot qu'on doit respecter, bien sûr. Donc, tout le Sefer Bereshit et le début de Shemot, c'est un livre où les choses sont décrites comme étant les chemins qu'ont inventés les Avot pour que leurs descendants puissent les emprunter. Pour donner un exemple, encore un dernier exemple, un double exemple en fait, on a déjà parlé de ça, le Ramban, il est excessivement sévère sur le fait qu'Abraham Avinu est descendu en Égypte pour fuir la famine. Ramban dit que c'est une énorme erreur qu'Abraham Avinu a faite, d'exposer sa femme, etc. Et il va plus loin, et il dit que si on est descendu en Égypte en exil, c'est la faute d'Abraham. Parce que le chemin qui descend des restes d'Israël en Égypte, il n'a été possible que parce qu'Abraham l'avait fait. Ça, c'est Ramban. Mais les autres, qui ne sont pas critiques, en tout cas pas aussi critiques, ils disent exactement le contraire. Ils disent que puisqu'Abraham est remonté d'Égypte en Eretz Israël, il a fabriqué le chemin que les Bnei Israël ont pu prendre pour sortir d'Égypte et remonter en Eretz Israël. Les deux Shitot, les deux enseignements sont là. Tous les deux provenant de sources très sûres. Donc tout ça, c'est pour dire que, par exemple, cette phrase « Je suis un étranger résident parmi vous », alors on a tendance à penser « Ben voilà, c'est notre situation dans le galoute ». Mais on n'est pas dans la possibilité de dire qu'on est les maîtres des lieux. Donc chez nous, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est résident ? Je suis étranger, ok. Donc je dépends de vous. Et qu'est-ce que ça veut dire résident ici, pour nous ? Et il y a aussi le mot « est ». Ker ve toshav. Les deux choses en même temps. Et pour nous, on est résident, ça veut dire on n'est pas le maître des lieux, on est toshav. on peut dire que on nous a donné des droits pour habiter ici. On réside effectivement ici. Et donc, on a tout le problème de Dina de Malchuta Dina. Comment être à la fois étranger et résident? Résident, c'est j'ai les droits sur le pays, dans le pays, mais donc des devoirs aussi. Puis comme je suis étranger, j'ai une autre culture, j'ai d'autres valeurs. Et je suis pas prêt du tout à n'être que résident. Je veux pas m'assimiler au pays dans lequel je suis en galoute. Je veux bien respecter certaines lois, il y a Dina de Malchuta Dina, mais je peux pas, quand ça vient en conflit avec la halakha, avec les mitzvot, je dois gérer, il faut savoir comment on gère ça. Donc c'est un problème, et là c'est une question un peu de savoir qu'est-ce qu'on apprend nous de cela, puisqu'on n'est pas dans la position d'Abraham. Alors, puisqu'on n'est pas dans la position d'Abraham, est-ce que cet enseignement il a encore un sens pour nous? Et si il n'a pas de sens pour nous directement, c'est donc c'est pas ça que ça vient nous dire. Il faudrait apprendre autre chose. Ce qu'on voit, c'est que Abraham, il parle de son droit très fort, de sa puissance sur cet endroit-là, mais il d'aucune manière, il cherche pas la guerre. Il cherche plutôt le compromis. Il cherche le compromis parce que Abraham Avinu, c'est le chesed. Et dans le chesed, il fait pas la guerre. Mais d'un autre côté, on sait que le chesed d'Abraham Avinu était excessif. De même que la rigueur de Yitzhak était excessive, et que ce n'est que avec Yaakov, le Emet de Yaakov, là, qui ferait le Emet de Yaakov, qui est le bon compromis, en quelque sorte, entre Chesed et Gvoura. Bon, alors, c'est juste une remarque pour dire que, voilà, c'est pas complètement évident ce que nous pouvons faire, nous, de cet enseignement de l'étranger résident. Il y a sûrement une façon d'élaborer une chose, ou bien alors ça vient dire autre chose. En fait, il met l'accent sur le fait que je ne demande rien du tout d'autre que une tombe. Pas plus que ça, s'il vous plaît, une tombe. Alors, la réponse, c'est la réponse d'Ibn Khet. Ils répondent, ils ont traduit, écoute, mon sieur, tu es un prince, un seigneur, un Elohim pour nous. Ils ont traduit un seigneur Elohim, mais c'est marqué en araméen. C'est marqué oui, dans le texte de la Torah, si on regarde ce qui est marqué dans le texte lui-même de la Torah, Ils lui disent, Shmoenu, écoute-nous, Adoni. Adoni, ça veut dire mon Seigneur, quoi. On traduit mon Seigneur. Nesi Elohim, ata, le tochenu. Tu es un prince d'Elohim parmi nous. Mais le Midrash, il a traduit Shmeinu Anoni, etc. Melech, Melech ata aleinu, Nasi ata aleinu, Eloa ata aleinu. Tu es un Dieu pour nous. Ils lui ont pas dit tu es un prince de Dieu. Tu es un Dieu pour nous. Alors du coup, Abraham leur a répondu, ce qui est important, c'est que le monde ne soit pas privé ni de son roi, ni de son Dieu. Donc à la limite, je vous prends au mot. Alors, après lui avoir dit tout ça, ils lui ont dit, Bemifrar, Kvarinu, Bemifrar, Shebik, Kvarinu, dans le meilleur, la meilleure de nos tombeaux, dans le meilleur de nos tombeaux, enterre ton mort. Kvor et metecha. Meti marbe. Il a demandé une tombe. Alors eux, dans la traduction, il dit enterre ton mort, mettra plusieurs morts, metecha. Ici, on voit un enseignement qui est important. Dans le texte, ils lui ont dit, Kvor, enterre ton mort, mettra. Mais il se trouve que on a dit souvent que la Torah, que la Bible, en général, n'est pas un livre, parce qu'il n'est pas lisible. On ne peut pas lire si on n'a pas une Torah chez Balpé qui nous dit comment lire, comment découper les versets, et qui nous dit aussi comment voyaliser les mots. Quelles voyelles il faut mettre? Parce que les voyelles ne figurent pas non plus dans le texte. Parce que ça, on en a déjà parlé, mais ce que je vous avais pas, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a encore un troisième élément. Il y a le problème de la cantillation. Dans toutes les synagogues du monde, on lit la Torah avec un certain air. Cet air, il est marqué. On a une écriture de cette musique. Alors, selon les pays, on a interprété cette écriture de façon différente. Ça ne se chante pas de la même manière chez les Ashkenazim, les Juifs allemands, les Juifs polonais, les Juifs russes, les Lituaniens, ils ne lisent pas de la même manière. Dans les Shivot, on ne lit pas la même chose que dans les cours chassidiques. Et chez les Sfaradim, à Constantine, à Oran, en Tunisie, au Maroc, on ne lit pas de la même manière non plus. Mais c'est toujours les mêmes idées dans la cantillation. Et il y a un ta'am, on ne va pas maintenant entrer là-dedans, mais donc ça s'appelle un ta'am, c'est-à-dire un des signes de la cantillation qui annonce qu'il faut baisser la voix. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait une coupure. Et cette coupure-là, elle est au milieu du verset. C'est le cas ici chez nous. Quand ils lui disent, ils lui disent, Ish mimenu et kivro lo yichle mimcha, mikvo metecha. Voilà, il y a ici un accent tonique qui est dit, des fois il y a, c'était déjà kvor et metecha, juste au-dessus. Normalement, on devrait dire kvor et metecha. Mais c'est metecha à cause de la cantillation. Le signe de la cantillation indique qu'il faut changer le E en E. Metecha. Mais quand on entend metecha, on entend la même chose que si on avait voulu dire t'es mort. Mais techa, ça sonne comme un pluriel. C'est un singulier qui est modifié, dont la lecture est modifiée à cause de la cantillation, ou bien à cause de la fin du verset, mais ça sonne comme un pluriel. Et donc le Midrash, il a entendu ça, évidemment. Ici, vous avez un exemple où le Midrash va rendre compte de ce qu'on entend à cause des règles de voyalisation imposées par la cantillation. C'est-à-dire, au lieu d'un E, on entend un E. Et ce E, metecha, ça fait que le mot metecha, il sonne comme tes morts et pas ton mort. Ton mort, ce serait metecha. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le Midrash était sensible à ça? C'est-à-dire qu'eux lui donnent une ton, comme il l'a demandé, mais en fait, ce que lui reçoit, c'est 6 places. Enfin, 4 de plus. Il reçoit 4 places vides. Parce que comme vous savez, dans cette Maharat HaMakpela, sont déjà enterrés Adam et Chava, seront enterrés Avram et Sarah, seront enterrés Yitzhak et Rivka, et Yaakov et Léa. Rachel, elle est morte en chemin. Elle est niftérée en chemin, donc elle n'est pas enterrée là. En plus, il y aura un invité surprise. Donc, comme vous savez, il y a encore autre chose, mais qui ne prend pas une place complète dans sa Maharat HaMakpela. Quand on a voulu enterrer Yaakov Avinu, qui avait demandé qu'on le transporte d'Égypte en Eretz Israël, justement à Hebron, on l'a transporté. Et quand on est arrivé, qu'on a voulu enterrer Yaakov, il y avait un ennui. Il y avait Monsieur Esav qui était là. Et Esav a dit, mais un instant, il y a que 2 places ici, libres. Il n'y a plus que 2 places, puisque il ne reste plus que ces 2 places-là. C'est pour ma femme et moi. Il a sûrement dit pour moi et ma femme, mais bon. D'accord. On ne sait pas laquelle de ces femmes, mais en tout cas une de ces femmes. Alors, ils ont dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est moi le Bechor. C'est moi le premier-né. Ils ont dit, mais tu as vendu ton droit d'aînesse. Il dit, apportez la preuve. Il dit, on a un acte. Montrez l'acte. On l'a laissé en Égypte. On se transporte pas. On n'a pas transporté toutes les archives familiales. Il dit, vous ne montrez pas le texte. Le bout de papier, je vous laisse pas enterrer ici, qui que ce soit, c'est à moi. Alors on a dit, on va envoyer Naphtali. Naphtali, c'est la gazelle. Son emblème animal, c'est la gazelle. C'est aussi l'emblème des postes d'Israël. D'accord, pour montrer que il fut un temps où les postes d'Israël distribuer rapidement le courrier. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont changé le... Ils ont changé leur logo, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plus vrai. Et, mais là-bas, il y avait encore un enfant, un fils de Dan. Dan avait un fils qui s'appelait Hushim. Et Hushim a entendu, Hushim était sourd. Alors, il voit qu'on n'enterre pas le grand-père, alors il s'est enquillé. Pourquoi on n'enterre pas le grand-père? Alors, on lui a fait comprendre que Esav, il ne laissait pas enterrer. Il ne laisse pas enterrer. Hushim, il a sorti son épée et il a tranché la tête d'Esav. C'est une façon expéditive de régler les problèmes. En tout cas, Esav n'empêchait pas. Il n'empêchait pas, il n'empêchait plus d'enterrer Yaakov. Mais ce qui est important, c'est que la tête d'Esav a roulé d'elle-même dans Marat HaMakhpela. Ça veut dire que la tête d'Esav, elle avait sa place dans Marat HaMakhpela. Donc il y avait 6 places, on payait plein pot, il y avait une place demi-tarif pour mettre une tête. Donc en réalité, Metecha, c'est... Il y avait Metecha, mais aussi un maître qui n'est pas vraiment Kha, pas vraiment ton mort. Peut-être que sa tête, et oui. Bon. Le problème de Sav, visiblement, on le voit ici, c'est que la tête était fabuleuse, la tête de Sav. Seulement, ce n'est pas elle qui gouvernait. Elle était gouvernée par ses pulsions, etc. Et les pulsions, elles dictaient à la tête ce qu'elle devait dire. Mais la tête elle-même, quand elle est toute seule, quand elle est séparée du corps, elle peut aller dans Marat HaMakhpela. Et elle y va. Donc, il a payé, évidemment, on va voir, il n'a pas encore complètement payé. Il va payer pour une tombe, mais en fait, il va en recevoir plus d'une. Et ça, on l'entend, encore une fois, vous voyez, on l'entend grâce à la cantillation. C'est-à-dire que ça devient lisible avec la Torah orale, plus une cantillation qui, je ne sais pas, peut-être aussi à considérer comme de la Torah orale. Enfin, c'est sûrement oral, ce n'est pas écrit. En tout cas, pour le Midrash, c'est-à-dire que ça veut dire que on lit le texte de plusieurs manières. On le lit comme on le lit à la Torah, dans le Shabbat, quand on lit, lundi, jeudi, Shabbat, quand on lit le Sefer Torah, d'une certaine manière, mais on l'entend un peu différemment quand on fait du Midrash. On n'a pas changé l'écriture. Dans le texte de la Torah, il n'y a jamais que les voyelles. Il n'y a pas les... Mais la Kabbalah que nous avons, la façon dont on doit voyelliser les mots, elle tient compte de la cantillation. Elle tient compte aussi de... C'est juste en dessous, c'est aussi parce que c'est la fin du verset. Le Techa, c'est 2 fois, mais là-bas, c'est fin du verset, on peut dire, c'est inclus dans le découpage. Mais là-bas, mais au milieu, c'est vraiment la cantillation. Il arrive fréquemment que le Gaon de Vilna, il rende compte, effectivement, de cette lecture qui inclut la cantillation. C'est ce que fait ici le Midrash. Bon, alors ils ont dit extra, formidable, bien sûr, tu vas l'avoir. Alors Abraham, il s'est levé. Et C'est pas écrit qu'il s'est levé. Dans le texte, c'est marqué « Vaishtarko Avraham lifnei Amaharetz ». Je sais pas pourquoi ils ont ajouté qu'il s'était levé. Le texte dit simplement, il s'est prosterné devant eux. Pourquoi il se prosterne là, à ce moment-là? Excusez-moi, dans le texte de la Torah, c'est marqué « Vayakom Avraham ». « Vayishtachu la'am haaretz im nechetz ». Le Midrash ne le reprend pas, mais dans le texte de la Torah, c'est marqué encore une fois. Il se levait de devant son mort. Il était devant son mort. Et il s'est incliné, se prosterné même devant eux. Et là, on apprend, ils ont traduit par « il faut savoir gré d'une bonne nouvelle ». Dans le texte du Midrash, c'est marqué « Shemodim al-Besura Tova ». C'est-à-dire, savoir gré. Il faut être modé, il faut reconnaître une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça vient de dire? Bien sûr qu'il faut reconnaître une bonne nouvelle. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout au bout de nos peines. Ce qu'on apprend ici, c'est que même quand c'est seulement sous forme de nouvelles, c'est seulement une annonce de quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il fallait remercier à chacune des étapes. On a franchi seulement une première étape. La famille est d'accord. Maintenant, il va falloir convaincre le camarade Ephron. C'est encore une autre paire de manches. Parce que c'est lui le propriétaire. Alors, la famille est élargie, le Bnechet, ils sont d'accord. Avraham Avinu, il dit, oh, c'est okay, parfait. Et il faut remercier pour ça. Ça, c'est une leçon. Que dans la vie, très souvent, on a l'impression qu'il faut toujours regarder les choses globalement. Il faut aussi regarder globalement, mais il faut apprécier les différentes étapes. Il y a une construction de cette vente de la tombe. Si la Torah nous le décrit comme ça, ça veut dire que elle nous enseigne les choses, elles ne vont pas comme ça. C'est pas tout de suite. Il ne pouvait pas parler à Ephron. Pourquoi on ne peut pas parler à Ephron? Parce qu'Ephron, c'est son champ patrimonial. Donc Ephron, il ne peut pas le vendre. On ne vend pas un champ patrimonial. Aujourd'hui aussi, il y a des gens. Non, on ne vend pas. Ça, on ne vend pas. Pourquoi? Parce que ça appartient à la famille, etc. C'est chargé d'histoire, etc. On ne vend pas. Je ne vends pas. Donc, comment il va falloir trouver une solution? Ephron ne va pas vendre le champ. Il ne va pas dire qu'il le vend. Le seul moyen pour lui d'avoir l'argent sans le vendre, c'est de dire devant tout le monde, je donne. Généreusement, il donne. Donnez, je te donne. Et donc, je vous ai dit, Avraham, il leur dit, on va jouer un jeu. Moi, je suis l'étranger. Je veux bien jouer le rôle de l'étranger si vous me donnez la tombe que je vous demande. Sinon, je ne joue pas le rôle d'étranger, sinon je vous la prends. Je prends toute la terre. C'est un jeu qu'on veut jouer. Et là, on continue le jeu. Cette fois-ci, c'est Avraham qui est en train de comprendre comment il faut parler à Ephron. On ne peut pas venir lui dire, écoute, je vais te payer ton champ combien tu veux. Pas du tout, je ne vais pas le vendre. Je ne vends pas mon champ patrimonial. Je le donne. Devant tout le monde, il apparaît généreux. Il donne. Et Avraham sait très bien que lui, il ne peut pas directement parler à Ephron. Il leur dit, Im yesh et nafshechem, si vous voulez vraiment, comme vous le dites, Ligbor et Meti, enterrer mon mort, Et le Fana est toujours devant moi. Toujours cette idée-là dont on a parlé, quand il faut le faire disparaître de devant moi. Parce que tant qu'il est devant moi, moi je suis aussi un peu mort. C'est comme ça qu'on a dit, n'est-ce pas? Et donc il va falloir l'ensevelir, une façon de le faire disparaître de devant moi. Mais le Fana. Alors si vraiment vous voulez enterrer mon mort, alors, Shmaouni, écoutez-moi, ou figouli be'efron ben socha. Et on va traduire en première approximation, et intervenez pour moi chez Ephron ben socha. Viten li, et qu'il me donne. Et ta mehara, et marat amachpela, asher lo, qui est à lui, asher bikce sadeu, je lui demande seulement la mehara qui est au bout du champ. Le kesef maleit neni. C'est-à-dire, je paierai plein pot. Et qu'il me le donne. C'est-à-dire, je joue le jeu. Voilà, j'ai bien compris qu'il fallait qu'il puisse dire qu'il me le donne. Mais il faut aussi qu'il soit rassuré, je vais payer. Il me le donne devant vous, avec votre accord, etc. Et le Midrash dit, le problème de la pigouli, cette pegia, le Midrash dit, il dit tous les sens du mot, enfin, trois sens du mot Pegia. Ils ont traduit par rencontrez-le pour moi, démarchez-le, priez-le pour moi. Le Midrash, il dit à peu près ça. Le Midrash dit, Piguneli, Sarsrunili, Vimlav, Saloli Aloui. C'est-à-dire, en d'autres termes, il faut lui demander Bekol Lachon Shel Bakasha. C'est-à-dire, de toutes les manières possibles, sous tous les angles possibles. Il faut le rencontrer pour moi. Donc, tout ce qu'il y a dans une rencontre, où je simplement le rencontre, c'est rien, c'est créer un lien pour moi avec lui. Ensuite, démarchez-le. On va mettre le sujet entre nous. Enfin, mettez le sujet entre, pour moi, entre vous et lui, mais c'est-à-dire à travers vous, entre lui et moi. Et si tout ça ne marche pas, alors, priez-le pour moi, c'est-à-dire suppliez-le. Ça pour moi. Donc, c'est pour ça que la Torah, elle a dit, Pegia, on sait que la Pegia, c'est une façon de. C'est un mot pour la tfila, pour la prière. Et alors, il faut encore de nouveau être attentif cette fois-ci, au texte. Le texte dit Ve'efron yoshev betoch benechet. Bon, alors, ils ont traduit. Ils ont tout cassé. Or, Ephron, il siégeait parmi les enfants de Chet. Mais c'est justement pas siégeait. C'est yoshev. C'est maintenant, maintenant seulement qu'il commence à siéger. C'est pas il siégeait, c'est un ancien magistrat. Il devient maintenant quelqu'un d'important. Alors le Midrash dit, maintenant, Ephron qui était un propriétaire d'un champ et d'une caverne, pas grand chose, mais tout à coup, brusquement, ou Ve'efron Yoshev betoch benechet. Rabbi Yitzchak Amar Yashav Ktiv Oto Hayom Minu Oto. Aujourd'hui même, on vient de le nommer chef des armées. Ça veut dire que c'est curieux parce que dans le Midrash, chez nous c'est marqué Yoshev, mais le Yoshev il est sans vav. C'est-à-dire, si je n'avais pas la ponctuation écrite, j'aurais dû Yashav. J'aurais traduit Yashav, ça veut dire il siégeait. Mais le fait d'avoir écrit le verbe sous forme d'effectif, c'est-à-dire chasser, sans le vav, mais le lire avec le vav, ce qu'on veut dire ici, c'est qu'en réalité, c'est juste maintenant qu'il vient d'être nommé. Le jour même, il devient commandant en chef des armées. Pourquoi c'est important qu'il devienne, ce jour-là, il devient commandant des armées? Le Midrash dit, c'est afin qu'un grand homme n'acheta point pas d'un petit. C'est pas le kavod d'Abraham d'acheter, lui qui est un prince, il achète pas chez un petit bonhomme là. Par contre, acheter quelqu'un qui est général de toutes les armées, c'est bon. Là, ça va, c'est assez de kavod. On entend ici quelque chose qui est bien connu par ailleurs. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai s'est fait sortir d'Yerushalayim, en se faisant passer pour mort, vous savez l'histoire, grâce à son neveu, il a pu sortir d'Yerushalayim pendant le siège, et il a attrapé le général, et il l'a salué comme étant l'empereur. Alors le général lui a dit, t'es deux fois Chayav Mita. Une fois parce que tu te fiches de moi, tu m'appelles empereur, et je suis seulement général. Et deuxièmement, tu es aussi Chayav Mita parce que c'est une injure à l'empereur d'apostropher quelqu'un d'autre comme étant l'empereur. Alors Rabbi Yochanan lui a dit, tu es empereur. Pourquoi? Parce que dans les psukim, on sait que le Beit HaMikdash ne peut pas tomber aux mains de quelqu'un d'autre que dans un empereur, un roi. Et à ce moment-là, sur ces entrefaites, il apprend qu'il est nommé, que le Sénat vient de le nommer empereur. Dans le Navi, Rochebourg se plaint des Bnei Israël. Il dit, à cause de vous, j'ai dû me faire le shamash de Nebuchadnezzar. J'ai dû me mettre au service de Nebuchadnezzar. Quand Hachem s'est mis au service de Nebuchadnezzar, c'était un roi de lait. Seulement, quand Rochebourg avait décidé que les Bnei Israël ne méritait pas le Beit HaMikdash, qu'il allait détruire le premier Beit HaMikdash. Et dans la liste des... Akadosh Baruch Hu a décidé que ça allait se faire avec Nebuchadnezzar, mais pour que le Beit HaMikdash, la résidence d'Hachem, c'est déjà incompréhensible qu'on puisse la détruire. Mais même si elle est devenue une coquille vide, parce que les Bnei Israël ont déjà détruit le Beit HaMikdash chez le Mala, même si c'est une coquille vide, elle ne peut pas être détruite par un roitelet. Donc Hachem dit, j'ai dû me débrouiller pour que Nebuchadnezzar devienne un empereur. Donc vous, à cause de vous, j'ai dû me mettre au service de Nebuchadnezzar. C'est toujours la même histoire. Abraham, il ne peut pas acheter si le vendeur, c'est un petit bonhomme de rien du tout. Le kavod d'Abraham, c'est d'acheter de quelqu'un d'important. Alors, pour ce faire, Hachem a fait en sorte que Ephron devienne général, commandant en chef du. Alors, Ephron répond, du coup, maintenant que on lui a parlé de Kol Lachon Shel Bakasha, maintenant qu'il tout à coup il se sent commandant en chef des armées, alors, Vayan Ephron. Ephron va répondre. Excusez-moi, je vais prendre le texte. Vayan Ephron Achiti et Avraham Veozneb Nechet Bechol Baesha Riro Lemo. Donc Ephron va répondre à Avraham devant les Bnechet, devant tous les gens qui sont venus. Le Midrash dit qu'ils ont fermé boutique pour aller voir ce personnage très important qui était Avraham. Bon. Melamed shenaalu daltotehem ve'alchu ligmol chassadim l'Avraham. Ils sont venus rendre hommage, ils sont français, à Avraham. Donc il y a une foule énorme au moment de cette vente. Et il lui répond, « Lo Adoni, Shmaini. » Non, non, mon Seigneur, écoute-moi bien, écoute-moi. « Asade natati lecha. » Natati lach, ici, écrit. « Le champ, je te l'ai donné. Et la mehara qui va avec, je te l'ai donné aussi. Tout ça, je te le donne. » Bon. Lui, il donne. Je vous ai dit. « Kvar metecha. » Enterre ton mort. De nouveau, Vaishtachu Avraham l'ifne Amaharetz. Avraham, maintenant, on a eu l'accord de la famille ou de la tribu. On a l'accord du principal intéressé. Avraham exprime sa reconnaissance. Il se prosterne devant les gens, il leur exprime sa reconnaissance. Bien entendu, je ne dis pas, mais bien entendu, Avraham, sa reconnaissance, elle va vers le maître du monde qui est en train de manipuler ces braves gens. Vaidaber el Ephron, veozne amaharetz les morts. Et donc, Avraham, il parle à Ephron de telle sorte que tous les gens l'entendent. Il leur dit, il lui dit, ach, im ata lush maini natati kesef asadeh, kach mimeni. Lui aussi, il dit, écoute-moi, je donne l'argent, je paye. Prends. Donc, il lui demande de bien vouloir prendre. Il a compris que c'est le jeu qu'il fallait jouer. Veikbera et mette. Et mette, je, Shama, je pourrais comme ça enterrer mon mort. Là-bas. Alors, Ephron, il faut quand même qu'il dise à combien il vend tout ça. Alors, Vayan Ephron et Avraham les morts lourds. Il lui dit, Adoni Shmaini, Eretz Arba Meot Shekel Kesef, Beni ou Beincha Mai, Pet Metra Kvor. Il lui dit, mon Seigneur, une terre de 400 zouz entre nous, c'est rien du tout. Je te la donne, bien sûr. Comme ça, il lui a donné le prix. Avraham, il a très bien compris le prix. Alors, le pasouk dit, Vaishma Avraham el Ephron. Il a entendu Ephron. Bien sûr, il n'est pas sourd. Pourquoi il a entendu? Il a entendu ce qu'Ephron lui a dit. Il lui a dit le prix. Et il l'a fait, tout de suite, il a compris. Vaishkol Avraham el Ephron et Akesef, Asher Diber Beozne Benechet. Arba meot shekel kesef, over la socher. Voilà, il lui paye. Il lui paye les 400 shekels, c'est un prix au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et il lui paye en over la socher. Vous savez, avant, quand les pièces d'argent étaient en argent, les pièces d'or étaient en or, évidemment, les gens, quand ils passaient dans leurs mains une pièce, ben, ils la grattaient. Ça faisait de la poussière d'argent, la poussière d'or. Donc, comme ça, au passage, ils prenaient un peu d'or. Mais du coup, les pièces qui étaient grattées, les changeurs, les marchands, ils ne les acceptaient pas toutes. Parce que si la pièce était trop grattée, elle n'avait plus le poids. Donc, il n'y avait pas le poids d'or ou le poids d'argent. Alors, Abraham Avinu, il lui a donné des pièces qui sont ouvertes à la socher. C'est-à-dire, ça marche chez tous les marchands. C'est-à-dire des pièces super qualité. Chaque pièce était nickel. Enfin, pas nickel, c'était de l'or ou de l'argent, mais chaque pièce était parfaite. Il y en a qui ont, certains écrivent que chacune des pièces qu'il a donné, chaque shekel, ça valait 25 000 shekalim standard, je sais pas. Bon, de toute manière, c'est une somme fabuleuse. Je vous ai dit qu'en réalité, il faut quand même au moins remarquer, peut-être s'interroger un peu, sur la question de savoir est-ce qu'Abraham avait le droit de dépenser tellement d'argent pour une chose comme celle-là. Finalement, c'est important d'enterrer. Mais est-ce que c'est tellement important d'être enterré ici ou là? Je comprends qu'il y a un intérêt à être enterré en même temps qu'Adam et Chava. Ok, je comprends. Mais malgré tout, c'est un problème. La Gemara, Chazal, ils discutent combien on peut dépenser pour quelque chose, combien on peut ajouter, que ce soit Hidour Mitzvah. C'est quoi ici? Quel est le statut de cette vente-là? C'est quoi? Alors, je sais aussi que, et ça, on en a déjà parlé souvent, on apprend ça de... Je lui ai enseigné en général quand on a parlé de Yaakov Avinu qui est retourné pour les Pachim Ktanim, qui du coup s'est retrouvé à devoir lutter avec l'ange. On a vu que les Avot, pour être indépendants, parce que pour pouvoir être Eved Hashem, il faut être indépendant, sinon on est Eved d'autre chose. Pour être indépendant, les Avot n'achetaient rien sans le surpayer, pour que le vendeur ne reste pas attaché à l'objet qu'il a vendu. Ce qu'on achetait, c'était toujours auprès d'un artisan. Les produits de Taïwan n'étaient pas encore arrivés sur le marché. Donc, on achetait les pots, les assiettes, etc. On achetait chez les artisans. Et un artisan, quand il avait réussi un de ses objets, il avait du mal à s'en séparer. Vous vous souvenez, on avait expliqué que on donne l'exemple de la loi française qui dit que la dernière fois que vous avez acheté un Rembrandt, si jamais Rembrandt il arrive chez vous et qu'il dit qu'il veut modifier son tableau, vous êtes obligé de le laisser faire, et même s'il le barbouille. Parce que c'est un droit de l'artiste qui reste après la vente. Il reste maître, d'une certaine manière, de son tableau et il peut le modifier. Vous pouvez pas vous opposer à cela. Donc, on voit bien que la loi, elle a reconnu que, quelque part, un artisan ou un artiste, il est attaché à ce point-là, à ce qu'il a produit, même s'il l'a vendu. Il l'a vendu parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. S'il ne vend pas, ni de quoi il va vivre. Mais néanmoins, il est attaché. Les avots ne voulaient pas que les gens soient attachés, parce que quelque part, du coup, ils étaient dépendants de la personne. Ils voulaient couper. Les objets sont entièrement à eux. Et donc, ils ont toujours surpayé. Mais ici, c'est surpayé de façon incroyable. Mais personne ne soulève. Je n'ai pas vu quelqu'un qui soulève le problème de savoir est-ce que ça posait un problème pour Abraham de surpayer à ce point-là. C'est vrai qu'il était très riche. Bon, si Hachem lui a donné toute cette richesse, c'était peut-être pour pouvoir acheter ces choses de cette manière-là. En tout cas, il a payé Ephron et le champ et la Mehara. Et donc, Marat Amarpela, sont devenus propriété d'Avraham Avinu. Le pasouk dit que le champ d'avoir passé de la propriété, enfin, d'être quelque chose qui appartenait à Ephron et maintenant d'appartenir à Abraham, pour lui, c'est une élévation. Un peu comme on dit qu'un animal qu'on amène sur le Misbéach, il subit une alia, une élévation, une spiritualisation quasiment. Il devient le porteur, enfin le moyen par lequel on obtient une kapara ou on se rapproche d'Hachem, etc. Et là aussi, le champ, il s'est rapproché d'Hachem puisqu'il s'est rapproché d'Abraham. Donc il y a une élévation du champ en question. Alors ici, on apprend quelque chose d'intéressant, c'est que les shkalim, Afranin a dit que les shkalim du Chumash, c'est des slaïm. Les shkalim des Nevi'im, c'est des livres d'Itra. Et les shkalim de Iov ou de Ktuvim, c'est des talents. C'est une monnaie plus lourde encore. Voilà, ce sont des. C'est-à-dire qu'en vérité, ça c'est la règle. Mais Rav Yudan dit qu'il y a une exception. Les shkalim d'Ephron, c'est des talents. Les shkalim d'Ephron, c'est les plus lourds, les monnaies les plus lourdes. Voilà, on s'arrête là.